Bill. Te remercions, Seigneur notre Dieu, pour le souffle de vie et l'opportunité que tu nous donnes ce soir de pouvoir nous rassembler. Puisse ce vœu se réaliser, que tu nous retrouves dans tes milices lorsque tu reviendras. Telle est notre prière ce soir et c'est pourquoi nous sommes encore là ce soir pour savoir comment marcher, comment vaincre dans ces temps difficiles où la séduction est forte. Mais nous l'avons chanté tout à l'heure, le Saint-Esprit est là pour nous conduire et pour nous guider. Et c'est sur lui que nous comptons en toutes choses. Puisse-t-il être pendu parmi nous ce soir? Fasse parler de ta part et qu'il nous fasse écouter également comme devraient écouter les disciples. Sois-nous miséricordieux car nos péchés sont nombreux. Nous avons aussi besoin de ta grâce. Que tu nous pardonnes. Que tu nous assistes. Ainsi que tous les autres bien-aimés qui auraient bien voulu être là ce soir mais certaines obligations les en empêchent ou quelque affliction dans leur corps, ou tout simplement par manque de moyens. Tu restes le Dieu qui se connaît le poisson qui a l'instateur dans la bouche, puisses-tu aider ceux qui en ont besoin. Inspire-nous ta parole ce soir. Rends-nous attentifs au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. On va prendre un petit sujet ce soir. Tous les soirs. Nous lirons dans Hébreux 11, chapitre de la foi. Verset 13 à 16. C'est un bon conseil. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pourrons nous asseoir. Il est important que chacun sache, lorsqu'il est appelé par le Seigneur, il n'est pas obligé. Dieu ne veut pas qu'on le suive par obligation. Il veut qu'on le suive par amour pour lui. Et chacun dispose de ce temps de retourner d'où il sort. Parlons ce soir un petit peu de ce temps, le temps d'y retourner. Retourner où? Retourner d'où on est sorti. Abraham, lorsqu'il a été appelé, Il obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Mais Dieu l'a appelé, il s'est levé, il a fait ses bagages et il est parti. À aucun moment dans son périple, dans son voyage, dans sa marche, à aucun moment on ne voit Abraham regretter son pays qu'il a quitté, ni même regretter ce temps qu'il avait en famille, avec les siens. Il est parti, qu'il neige, qu'il fasse sec, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il y ait abondance ou qu'il y ait famine, à aucun moment Abraham ne regrette Ur en Chaldée. Il n'y pense même pas. Et pourtant, que ce soit Abraham, que ce soit vous, que ce soit n'importe qui, chacun, Dieu lui donne le temps pour pouvoir rentrer d'où il vient, s'il le désire. Dans Genèse 12, on voit Abraham affronter une famine. Il ne pense pas, dans la famine, rentrer en Ur, en Chaldée. Il est parti en Égypte, mais pas d'où il est sorti. Verset 10, Genèse 12, il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Il pouvait rentrer chez lui. Chez lui, il n'avait pas de problème avec Sarah. Avec Sarai. Jamais en Ur en Chaldée. Dieu dit qu'il vient de Ur en Chaldée. Hein. Genèse 15, verset 7, l'Éternel lui dit encore à Abraham, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Sarai, en plus, en Chaldée, il était jeune. Sarai était jeune. Mais il n'était pas inquiet d'avoir une aussi belle femme en Ur, en Chaldée, mais malgré tout, lors de la famine, il part en Égypte, il ne regrette pas Ur, en Chaldée. Il va chez les Égyptiens, dont il connaissait peut-être un peu le mode de vie. Alors, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront, te laisseront la vie. » Oui. Dis, je te prie que tu aies ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Effectivement, la nouvelle est arrivée chez Pharaon, que la femme d'Abraham était fort belle, malgré son âge. Et Pharaon l'a prise pour femme pendant un temps, jusqu'à ce qu'il constate qu'en fait, c'était la femme d'Abraham. Pourtant, il avait vraiment le temps de retourner dans sa patrie. Ces choses ne lui seraient pas arrivées. Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, une multitude de gens de toute espèce a suivi, parti avec Israël. Dans Exode 12, Ceux-là, ils ont suivi. Dieu ne les avait pas appelés hors d'Égypte. Ils ont suivi Israël. Verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Soukhot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Non, non, on ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants. Si on devait compter, on arrivait au million. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Et cette multitude, c'était une source de problèmes pour Israël. Les suiveurs sont souvent une source de problèmes. Lorsqu'ils suivent, une crise s'élève dans la communauté ou dans l'assemblée. Ils n'ont pas tendance à vouloir rentrer seuls. Ils vont vouloir rentrer d'où ils viennent, mais en vous ramenant avec eux. Cette multitude sera appelée plus tard un ramassis. Lorsque une crise s'est élevée au milieu d'eux, ils vont même essayer d'entraîner les enfants d'Israël dedans. Nombre chapitre 11. Ça, ce sont les suiveurs. Branham les a appelés autrement, les soi-disant croyants, qui font semblant d'être croyants. Ils sont dans la foule. Ils sont dans la marche. Mais ils ont toujours cette tendance à vouloir rentrer, mais jamais seuls. Nombre chapitre 11. Le ramassis, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. De convoitise. Koloula, comme on dit chez nous. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. C'est inciter les gens à rentrer. Ces poissons ne nous coûtaient rien. Nous nous souvenons des concombres. Pourquoi des concombres, des melons, ce sont des fruits qui sont gorgés d'eau. Ça aide pour la soif. Nous nous souvenons de ça. Hein, tu t'en souviens? Des melons, des poirons, des oignons et des os, de l'ail. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne, c'était quelque chose d'extraordinaire. Dans Jean chapitre 8, les Juifs vont dire au Seigneur, nos pères ont mangé la manne. Jésus va leur dire, ils sont tous morts. Mais c'était quelque chose, la manne. C'était une nourriture qui venait du ciel. Les concombres, les melons, c'est de la nourriture qui rampe sur le sol. Les poireaux et toutes ces choses. Maintenant, si le sol n'est pas contaminé, ça va. Mais si le sol est contaminé, vous mangez n'importe quoi. On vous donne de la nourriture venue du ciel qui, pour les enfants d'Israël, devrait être un repas, le meilleur repas qui soit, mais les suiveurs, ils en ont marre. pour aller écouter la parole, pour nourrir l'âme. Comme aujourd'hui, on est à l'âge du téléphone, le téléphone peut fonctionner. Il va vous téléphoner pour vous dire, lui se sent un peu fatigué aujourd'hui, il n'ira pas à l'Assemblée. C'est pour vous inciter à ne pas venir non plus. Ah, et puis, tu as vu tous les grêlons qui sont tombés tout à l'heure. Tu as vu la grêle, il fait vraiment mauvais. Non, moi, je n'irai pas ce soir-là. Vous, après, vous, ça vous fait réfléchir à ce moment-là. Oui. Israël, donc comme on lit dans le psaume, le pied a failli glisser. Et ça peut nous arriver souvent. Ce n'est pas nécessairement un frère qui téléphone. Ça peut être quelque chose de captivant à la télévision ou je ne sais pas moi. Une bande de copains ou quelque chose dans ce genre, une activité, un événement qui fait que, allez, pour aujourd'hui, je vais un peu retourner vers ces choses-là que j'ai laissées. Israël a fini par marcher, se plaignant, murmurant en chemin, quand quelque chose n'allait pas. Arrivé à Kadesh Barnéa, eux aussi maintenant, ils vont avoir l'occasion, ils vont chercher une occasion de rentrer. Parce qu'ils estiment que la promesse que Dieu leur a faite est inaccessible. C'est que Dieu promet, c'est trop grand. C'est trop beau pour être vrai. Et en plus, quand on parle de la foi, avoir la foi devant ces gens-là, ces fils d'Anak qui sont là, ça pose problème. C'est pas pour moi. Le Saint-Esprit est là, c'est pas pour moi. Il va me faire agir comme ça. Non, c'est pas pour nous, c'est trop difficile. Ils vont venir, oui, c'est vrai, c'est un beau pays, mais il y a les fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nombre 14, verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix, c'est toute l'assemblée, et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? » Question, ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte, d'où nous venons. On était peut-être esclaves là-bas, d'accord, c'est vrai, mais c'est mieux l'Égypte. Retournons-y. Le résultat de tout ça, Dieu se fâche. Au verset 20, l'Éternel dit, après l'intercession de Moïse, l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire. » Pour chaque fois qu'on transpose sur nous, hein, « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père, de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Retournant en Égypte, non, ils avaient le temps d'y retourner. Vous avez le temps de rentrer. Mais si vous rentrez, sachez que Dieu considère cela comme un mépris. Comme un mépris par rapport à ce qu'il vous a donné, par rapport à ce qu'il vous donne. Nous connaissons l'histoire de Ruth et d'Orpa dans le livre de Ruth. Ce sont deux femmes qui étaient belles-sœurs qui ont été appelées au milieu dans une famille d'Israël, de Juda. La famille est morte, donc l'homme, le papa, les enfants sont morts, laissant les trois veuves, donc Naomi avec les deux belles filles. Il n'a pas fallu beaucoup pour convaincre l'une d'elles, Orpa, pour rentrer. Mais Ruth avait déjà pris sa décision. Pour Ruth, c'était hors de question. Dans Ruth, chapitre 1er, verset 11, Naomi va leur dire, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth est restée avec sa belle-mère. Orpa est rentrée. Personne ne l'a blâmée. Elle avait le droit de rentrer. Ça va? Dieu n'oblige pas. Mais c'est un Dieu qui peut tout. C'est vrai que des problèmes peuvent surgir, mais Dieu est toujours au-dessus des problèmes. Il dit ceci aux disciples. Vous savez, quand Abraham a quitté sa patrie et tout pour se poursuivre, Dieu lui a donné un fils. La Bible nous dit que quand Dieu lui a demandé si on avait continué à lire, on l'aurait lu. Mais Abraham était certain que Dieu était capable de ressusciter cet enfant. Dans Marc chapitre 10, Pierre va dire au Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand bien même Naomi pouvait dire à ses belles filles que je ne pourrais plus vous donner des fils pour vous marier, ces belles sœurs, ces belles filles-là ont entendu la parole de Dieu, que c'est un Dieu de paradoxe, que c'est un Dieu tout-puissant. Elles connaissaient. C'est pourquoi Ruth lui dit, non, j'ai entendu parler, c'est vrai, il nous est arrivé malheur, mais ton Dieu sera mon Dieu. Ce Dieu-là, je le veux absolument. Ce n'est pas parce qu'on nous parle de ce Dieu tout-puissant que lorsqu'on marche, tout est rose. Hein. C'est un chemin périlleux et difficile. Mais il faut y aller quand même avec conviction. Et que les difficultés ne vous fassent pas retourner en arrière. Paul dit, par exemple, il dit, oubliant ce qui est en arrière, je vais vers le but. Ne revenez jamais à l'arrière. Jamais. Ça aura tendance à vous faire reculer, voire même à vous transformer en statue de sel. Dans Marc 10, donc Pierre dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, quoi que tu aies quitté, Dieu est capable de remplacer. Ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Vous avez bien entendu? Avec des persécutions. Jamais de manière trop facile. Vous en recevrez, oui, mais avec des persécutions. Que ces persécutions ne vous fassent pas rentrer en arrière. Quand vous allez venir à l'assemblée, le frère Tomo va vous faire chanter « La croix est devant moi, je ne peux plus jamais reculer. » Quand vous la chantez, est-ce que vous y pensez? Jésus dit « Vous l'aurez ». Vous vieillissez, vous ne l'avez toujours pas, mais ce n'est pas grave, sur cette terre, je suis voyageur et étranger. Donc, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, on recevra la vie éternelle. Comment en arrive-t-on à considérer à rentrer en Égypte? Qu'est-ce qui fait que, après avoir connu tout ça, Israël a vu les prodiges, comme on l'a lu dans Nombre 11. A vu les prodiges, a vu tout ce que Dieu a fait, les grandes choses que Dieu a faites. Israël a vu tout ça, a vécu tout ça, a expérimenté tout ça. Comment en arrive-t-on à convoiter encore l'Égypte, à vouloir rentrer en Égypte? Lorsqu'une crise intervient, le problème, c'est vous regardez à quoi? C'est là où vous fixez vos yeux qui va déterminer votre désir de retourner en arrière ou de continuer en avant. Tous ceux-là qui sont dans Nombre 11, dans Hébreux 11, là, ils avaient aussi le temps de retourner d'où ils étaient sortis. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont persévéré dans leur marche? Ils avaient, au verset 15, il nous est dit, en fait, ils avaient en vue quelque chose. Il nous est dit au verset 15, s'ils avaient eu en vue la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Si votre vision se place toujours sur ce qui était derrière vous, c'est sûr que vous utiliserez ce temps-là pour rentrer d'où vous veniez. C'est ce à quoi vous regardez. Parce que si Moïse, par exemple, avait regardé en arrière vers l'Égypte et devoir marcher au milieu de ce peuple qui n'arrêtait pas de murmurer contre lui, qui n'arrêtait pas de venir le prendre à partie, lui et son frère, parfois même son frère, sa sœur. Moïse, il avait une bonne place là-bas, près de Pharaon. Il aurait pu regretter, « Ah, je serais en ce moment-ci, je serais certainement en Égypte en train de donner des ordres. Mais en train de jouir de tout ce que l'Égypte peut me donner. Mais au verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car, c'était le truc, il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est là qu'il faut regarder. C'est ce qui fait que Moïse n'a jamais regretté l'Égypte. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La croix, elle est devant moi. C'est vrai que la marche n'est pas facile. Qu'est-ce qui fait que je ne veux plus de ce monde, du monde que j'ai quitté? Qu'est-ce qui fait que je ne regrette pas ce que j'ai quitté? Ayant cette croix devant moi, je regarde à ce que cette croix m'a apporté. C'est que cette croix m'apporte. Ça signifie quoi, la croix? La croix signifie que quelqu'un a porté mes souffrances. La foi signifie que quelqu'un s'est chargé de mes douleurs. La croix signifie que quelqu'un a été châtié à ma place. La croix signifie que je suis en paix avec Dieu. Ouais. Dans Ésaïe 53, vous connaissez cela. Verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il n'est pas dit qu'il a enlevé nos souffrances. Il les a portées. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire à Jésus-Christ, « Seigneur, tu ne sais pas ce que je ressens. » Il sait. Parce qu'il a porté vos souffrances. Il ne vous a pas enlevé. C'est-à-dire que quand il vous parle, il sait que vous souffrez, il sait ce que vous ressentez. Le fait de savoir que lui sait ce que je ressens, ça m'aide à continuer mon chemin. Parce que s'il n'était pas passé par là, on peut lui dire, c'est facile pour toi. Toi, tu n'es jamais passé par où je suis passé. Il a eu faim. Il a eu soif. Il a été méprisé. On l'a diffamé. On l'a injurié. On l'a frappé. Il s'est chargé de mes douleurs. Quand je pleure de douleur, Il sait ce que je ressens. C'est ce qui me donne la force aujourd'hui. Quand je passe par la sombre vallée, je sais que lui sait. C'est un Dieu qui connaît ma condition. Il ne plane pas là, sur son trône, en me regardant, ne comprenant pas très bien ce que... Non, il sait ce que c'est que la souffrance. Mais seulement lui, il a besoin de battants. Des gens qui savent tenir ferme que leur oui est un oui. Que leur non est un non. Pas un oui mais ou un non mais. C'est ça, cette croix qui est devant moi. Et nous l'avons considéré comme puni. Il sait ce que c'est qu'une punition. Quand Dieu punit, il sait. Frappé de Dieu. Naomi le dit. Naomi dit à ses belles filles, comme la main de l'Éternel a pesé sur moi. Jérémie pleure dans Lamentation. Il dit, j'ai vu toute la souffrance. C'est pas? Et je crois que c'est dans un livre Persécuté mais non abandonné, je crois que c'est ça. Où quelqu'un a été persécuté. Il a abandonné. Il a renié le Seigneur finalement. Et comme explication, il a donné, il a dit, j'ai souffert plus que le Seigneur. Il ne sait pas ce que le Seigneur a souffert. Avoir laissé le trône, descendre, venir ici-bas, vivre avec des gens comme nous, des médisants, des calomniateurs, nous supporter. Mais c'est, l'homme ne peut pas concevoir que Dieu connaît. Quand vous regardez la souffrance des Juifs pendant la guerre 40-45, vous dites... Comment est-ce qu'un Dieu peut regarder les gens? Dieu sait comment ils souffrent. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous imaginer la mort à la croix. C'est que ça donne comme souffrance. Quand on devait les crucifier, ce sont des gens qui mouraient dans des souffrances. Incroyable, l'homme est méchant. Jérémie, lui aussi, il dit, Dieu m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Dieu tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os et ainsi de suite. Vous savez, quand vous avez quitté quelque chose, pour la cause divine, ne retournez jamais plus là-bas. Ça peut être un lieu, ça peut être un problème, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qui vous a fait où vous avez dû recourir à Dieu pour quitter. Parce que si Abraham a quitté le pays, c'est suite à un appel divin. Vous aussi, si vous aviez, je ne sais pas moi, un problème et que vous avez fait appel à Dieu pour régler le problème, quand vous avez quitté ça, ne revenez plus là-dessus. Vous ne réussirez jamais à l'arranger si vous revenez après. Parce que vous dites que ah, peut-être je l'ai mal arrangé. OK ? Retournez-y, arrangez-le. Qu'est-ce qui vous dit que la deuxième fois, vous allez mieux l'arranger ? Maintenant, il faudrait une troisième fois. Pour vous avoir dit une fois ici, on avait un problème il y a longtemps, il y a très longtemps de ça. Et dans les discussions, il y a un frère qui s'était senti lésé, en tout cas, qui s'était senti, comment dirais-je, attaqué par quelque chose que j'aurais dit. Alors, il m'a demandé à ce qu'on puisse se voir pour arranger ça. Moi, j'ai dit, OK. On peut se voir. À l'époque, la sœur nettoyait ici le lundi. Moi, j'ai dit, écoute, voyons-nous à l'assemblée mardi. On va se voir mardi. Mardi, on s'est vu. Et on est resté assis. Puis, il me dit, non, c'est parce que, voilà, tu vois, tel jour, on avait discuté. Tu avais dit quelque chose qui ne m'avait pas plu. Je dis, ah, tu veux bien me rappeler ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, lui-même, il réfléchit. Il dit, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais tu ne te rappelles pas. Comment veux-tu que moi, je me rappelle? Toi-même, tu ne te rappelles pas. Oui. Et ça n'a pas servi à grand chose, cette nouvelle entrevue. Bon, mais pour couper court, on dit juste, écoute, on a arrangé ça. Si j'avais dit quelque chose intentionnellement, peut-être je m'en souviendrai. Mais c'est passé. Moi, je ne sais plus. On s'était dit, pardonne-moi. Non, si tu n'as pas pardonné, ça c'est ton problème avec Dieu. Si tu as oublié, OK. Alors, finalement, on s'est séparés. À ce moment-là, je me suis senti allégé. Puis 10 minutes après, quand j'y ai repensé, ça m'a un peu énervé. Vous voyez comment fait Satan? On ne revient plus sur ça. Paul dit, ce qui est en arrière, c'est en arrière. Il faut avoir les yeux sur le but. Poursuivez le but. Dieu arrangera le décor certainement un jour. La croix, elle n'est pas derrière moi, elle est devant moi. Quand je souffre, je regarde à la croix. Je dis, il a souffert pour moi. Pour qu'il sache ce que moi je ressens. Moi, je me dis, il a la douleur que j'ai. Il sait ça. Il a été meurtri par ses meurtrissures. Je suis guéri. Ça, c'est ce qui est devant moi. Et comme je le chante, cette croix étant devant moi, je ne veux plus retourner en arrière. Je ne veux plus. Elle est devant moi. Le temps de retourner, je n'ai pas envie d'utiliser ce temps-là de retourner. C'est toujours le temps d'aller vers l'avant. Pourquoi? Parce que j'ai en vue une patrie que Dieu est en train de me préparer. Bon, on n'a pas tout lu hein, lundi, dimanche, mais quand je lis Apocalypse 21, moi, cette ville, je rêve de la voir. Je rêve d'y entrer. Alors, jusque-là, quand je chantais « Ville de perles et de lumière », je ne m'imaginais pas qu'elle était aussi grande. Moi, je disais, tous ces élus qui iront dans cette ville. Est-ce qu'il y aura de la place?
Oui.
Alors, quand je vois les dimensions, je dis, mais gloire à Dieu, il y aura de la place. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est devant moi. Une ville pareille. Verset 9. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. On ne va pas tout lire, mais allez lire ça à la maison. Mais c'est une ville extraordinaire. Et c'est cette ville-là, c'est cette patrie-là, qu'il est allé me préparer. Moi, mon souci est d'y être. Je n'y serai pas là en train de râler. Ah, mes jambes me font mal. Les genoux me font mal. Non, je serai en pleine santé dans cette ville. Je marcherai en pleine santé. Mais pourquoi voulez-vous que je me batte à vouloir revenir en Belgique? En Belgique, je suis un étranger ici. Je ne suis pas chez moi. La Belgique, ce n'est pas chez moi. Quand je vais au Congo, c'est encore pire. Ce n'est plus chez moi, depuis longtemps. Mais j'ai une ville que je regarde droit devant moi. C'est dans cette ville-là que je veux m'y retrouver. Vous tous, vous avez ici ce soir le temps de retourner d'où vous êtes sortis. Moi, j'ai aussi ce temps-là. On ne blâmera personne qui veut partir. Mais on connaît la cantine, ce qu'on chante, n'est-ce pas? Si tu ne viens pas, ne m'empêche pas d'y aller. Laisse-moi y aller. Si tu viens quand même avec moi, eh bien, allons-y ensemble. En chemin, on aura des désaccords, ce n'est pas grave, mais ayons le même but. Les désaccords, ça peut arriver. Mais Paul dit, quand vous êtes en désaccord, n'accélérez pas ou bien ne ralentissez pas. Marchez d'un même pas. Et le Seigneur vous éclairera. Si vous avez confiance au Seigneur, c'est sûr que le Seigneur vous éclairera. Vous n'avez pas besoin de retourner en arrière. Vous avez besoin d'aller toujours de l'avant. Et cette cité, eh ben, ça c'était le truc qu'eux ils avaient. Vous savez, ils sont morts. La Bible le dit, hein. Ils sont morts sans avoir reçu. On termine. Pardon. Il dit, au verset 13, c'est dans la foi, ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Abraham, il a dû enterrer Sarah à un moment donné. Mais dans cette ville, si on avait lu un peu plus haut, dans cette ville-là que Dieu nous a réservée, les deuils, ça n'existe plus. Il essuiera toutes les larmes de nos yeux. C'est dans cette ville-là. Amen. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, non sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Tout le monde ne parle pas comme ça, mais ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Nous la cherchons. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Cette cité-là, merveilleuse. On m'a un peu corrigé, on m'a dit, frère, tu as calculé. Quand tu as calculé la superficie, tu as mis quand même un peu trop grand. Et frère, c'est que tu c'est un calcul là, c'est le périmètre. Moi, je te parle de la surface. C'est évident, un périmètre, ça ne vous fait que 8000 km. Mais le rayon de la Terre, c'est 10 000 km, c'est quand même grand. Hein? Cette ville-là, elle est grande. Hein? 2000 km de côté, il y a de la place. Je vous le dis, c'est deux fois le Congo. Les Congolais sont toujours fiers. Notre pays, c'est 2 345 000 km². Eh bien, cette ville-là, c'est 4 840 000 km². Deux fois plus. Il y a de la place pour 1 milliard. Alors, s'il y a 1 milliard d'élus, c'est impossible que je n'y sois pas. C'est vraiment impossible. Que Dieu vous bénisse. Ne retournez pas en arrière. Et ne retournez pas sur quelque chose que vous avez déjà réglé. Sinon, ça montre que vous vous êtes trompé. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est vrai. Nous chantons ce petit cœur que tu es vivant aujourd'hui, ce soir. Et il est vrai que là où nous allons, nous avons à traverser des obstacles, à vaincre des obstacles, à les surmonter, vaincre des difficultés. Nous ne te demandons pas de les enlever. Nous te demandons tout simplement la victoire dans tout ce qui peut arriver. Et que nous soyons trouvés en vainqueurs dans tes milices comme nous l'avons chanté. Lorsque tu reviendras. C'est vrai que le temps de rentrer est là. Abraham avait tout le temps de rentrer. Mais Ur en Chaldée ne lui disait plus rien. Pourtant, il avait de la famille. Il y avait son frère, le papa de Rebecca. Il y avait encore de la famille là-bas. Mais ce pays ne lui disait plus rien. Il cherchait la patrie que Dieu lui avait promise. Et c'est ce que nous cherchons également. Rien ni la mort ne peut nous empêcher un jour d'entrer dans cette patrie. Car c'est le Dieu éternel qui l'a préparé pour nous, ses enfants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Bénis tes enfants. Et cela me rassure de savoir que quand je souffre, comme nous le dit l'apôtre, nous avons un souverain sacrificateur qui sait compatir à nos faiblesses. Quand je suis faible, il le sait. C'est pourquoi aujourd'hui il est là, dans les lieux célestes, à la droite de la majesté divine, intercédant pour chacun d'entre nous. Ses prières à lui, tu les exauces toujours. Aussi pendant que certaines crises nous prennent, c'est vers lui que nous tournons les yeux. C'est ce que l'apôtre nous demande de faire en disant, ayant les regards fixés sur Jésus. C'est sur lui que nous fixons nos regards. Et en le regardant, nous savons, nous avons une certitude, c'est d'arriver au but que tu nous as donné, que tu nous as fixé. Nous te remettons le restant de la soirée entre les mains. Accompagne chacun d'entre nous. Bénis tes enfants au nom merveilleux et suffisant du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.